Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Bidibi et Hermione Huigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00 229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00 229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Que la solution existe.
Oui, Seigneur, tu es très très bon. Oui, Père éternel, excellent Père de gloire, tu es merveilleux, Seigneur. Nous venons encore te dire merci, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es bon, parce que tu es en nous Seigneur, parce que tu es non seulement avec nous mais que tu es en nous. Que tu vis en nous, que nous ne sommes plus nous mais nous sommes toi Seigneur. Cela veut dire que rien ne nous est impossible Seigneur. Les montagnes de nos vies se déplaceront au nom de Christ Jésus Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es là, parce que tu te laisses adorer, parce que tu te laisses douler. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui nous allons encore avoir la grâce de passer avec toi de merveilleux moments. Merci pour ces merveilleux moments que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu prends toi-même le contrôle de toutes choses. Nous ne sommes que des instruments de tes mains qui te plaisent d'ouvrir les cœurs, de les disposer. Tu sais ce dont chacun de nous a besoin. Tu sais ce que chacun de nous a besoin d'entendre. Qui te plaise d'ouvrir nos cœurs, qui te plaise de nous donner à chacun de nous un rhéma. Oui Seigneur, dis à chacun de nous une parole qui va le guérir, une parole qui va le restaurer, une parole qui va le fortifier, une parole qui va lui donner la foi indispensable pour déplacer les montagnes. Merci Seigneur parce que tu es là et que nous savons que tu le fais. Sois le bienvenu. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons prié Seigneur. Amen. Alors bonsoir, cette semaine nous allons traiter ensemble du sujet pourquoi et comment devenir le sel et la lumière du monde. Alors est-ce que par hasard il y a des attentes particulières par rapport à ce séminaire qui est la suite de ce que nous avons fait la semaine dernière? La semaine dernière nous avons vu comment mettre le ciel en fait, nous avons compris que c'était en travaillant pour le Seigneur, en représentant le Seigneur, en étant des témoins du Seigneur, que c'était en étant en mission pour le Seigneur que nous pouvions réjouir le ciel et que c'est seulement quand nous réjouissons le ciel que nous pouvons recevoir les grâces, les faveurs du ciel. Cette semaine, nous allons continuer sur la même lancée, nous allons être plus opérationnels parce que impacter pour le Seigneur, être témoin du Seigneur, c'est aussi ce qu'il appelle par ailleurs être le sel et la lumière du monde. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment être le sel et la lumière du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment cela peut se passer concrètement? Alors, est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à cela? Si oui, on va les prendre rapidement avant de commencer. C'est un sujet qui n'est pas très populaire dans l'Église. Et j'aime bien qu'on fasse des enseignements pour leur dire comment être béni, comment guérir, comment être riche. Comment se marier, comment prospérer. Mais personne n'est intéressé à comment faire plaisir au Seigneur, comment impacter pour le Seigneur. Personne ne se soucie de comment obéir à Dieu. Tout le monde veut juste savoir comment se faire bénir par Dieu. Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions. Il n'est pas un distributeur de bonbons. Il n'est pas que sauveur. On nous dit que Jésus est Seigneur et Sauveur. Sauveur, ça veut dire celui qui nous sauve, celui qui règle nos problèmes. Donc ça, on n'a pas besoin de nous présenter Jésus Sauveur. Nous le connaissons très bien, nous en abusons même. Mais vous ne devez pas oublier qu'il est à la fois Sauveur et Seigneur. Seigneur, ça veut dire maître, ça veut dire propriétaire, ça veut dire celui qui a pouvoir de vie ou de mort sur vous. Ça veut dire celui dont vous êtes l'esclave. Ça veut dire celui qui vous utilise. Ça veut dire celui que vous servez. Un esclave est un serviteur. Si je suis l'esclave de quelqu'un, en réalité, il me donne à manger parce qu'il en a envie. Il m'habille parce qu'il en a envie. Il me traite bien parce qu'il en a envie. Mais je ne peux pas être l'esclave de quelqu'un et estimer que ma seule raison d'être, c'est de passer tout mon temps à lui présenter des requêtes. Est-ce qu'on peut être même le simple serviteur, même collaborateur de quelqu'un, et n'aller le voir que pour lui demander des choses? Quand vous êtes le serviteur de quelqu'un, votre première vocation, c'est ce que vous faites pour lui, c'est pas ce que lui fait pour vous. Ce qu'il fait pour vous, c'est un minimum parce que vous devez vivre pour le servir. Et s'il veut vous faire plaisir, c'est généralement parce que vous l'avez bien servi. Mais un serviteur ne peut pas mettre ses besoins au rang des priorités quand il parle à son maître. Si les chrétiens vont à l'église, matin, midi, soir, veillée de prière, cérémonie de délivrance, et puis tout ce que j'en passe, et qu'on ne voit jamais d'effet, c'est parce qu'ils sont en train de demander à Dieu quelque chose qui ne correspond à rien dans la parole de Dieu. La foi, c'est d'attendre ce que Dieu a promis. Ce n'est pas d'attendre seulement ce qu'on espère. C'est pour ça qu'on dit que la foi, c'est une expérience qui vient de ce qu'on entend. Attention, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Pour qu'une espérance, pour qu'une attente, pour qu'un vœu, pour qu'une prière puisse être éligible à la foi, il faut qu'elle fasse partie des promesses de Dieu. Si Dieu n'a pas promis quelque chose, être sûr que parce qu'on a prié, Dieu va le faire, ce n'est pas de la foi, c'est de l'espérance au mieux. Il y a foi quand on prend Dieu et qu'on lui dit, Seigneur, je t'invoque, pour ne pas dire je t'interpelle, parce que c'est Dieu. Je t'invoque, je réclame ce que tu as promis. Parce que tu es Dieu. Dieu dit quelque part dans sa parole, venez, plaidons. C'est-à-dire, discutez. Il dit, si j'ai oublié quelque chose, rappelez-le-moi. Si je dois quelque chose à quelqu'un, rappelez-le-moi. Et quand vous regardez bien, la Bible nous montre le royaume des cieux comme un grand tribunal. Il y a Dieu le magistrat, il y a Satan le procureur général qui est l'accusateur de nos frères, il y a Jésus qui est l'avocat en chef. Quand on parle de paraclet, quand on parle d'intercesseur, quand on parle de Jésus, notre avocat auprès du Père, il n'y a pas d'avocat quand on n'est pas dans un tribunal. Quand vous voulez obtenir quelque chose au tribunal, vous plaidez. C'est-à-dire que vous dites, il y a le fond, ce que vous voulez, et comme nous le voyons tous les jours dans notre pays, comme partout ailleurs, les ignorants pensent que le tribunal se gagne sur les arguments. Voilà, les choses se sont passées, c'est à 8 heures, j'ai ouvert la porte, lui l'a fermé, il a dit si, arrêtez si vous regardez bien. Les juges n'écoutent pas beaucoup ça. Et c'est rare que vous allez voir dans leur décision, vous ne sentez jamais dans la décision d'un juge qu'il a passé beaucoup de temps sur les détails. Dans tous les cas, il n'est pas là et chacun peut parler. Il y a des gens qui mentent, qui parlent bien, il y a des gens qui disent la vérité, qui ne savent pas parler. Et les juges le savent. Donc aucun juge ne se fatigue sur le fond d'un dossier. Un juge se fatigue sur la forme. Ce qui fait prendre une décision à un juge, c'est pour ça que les illettrés disent qu'il y a la corruption au tribunal. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais je dis que ce qu'on appelle corruption au tribunal n'est pas toujours de la corruption. Quand vous présentez un cas à un juge, au-delà de tout ce que vous dites, ce qui l'intéresse, c'est quelles sont les lois que vous invoquez, sur quoi vous vous appuyez, en vertu de quoi vous réclamez être acquitté, ou en vertu de quoi vous réclamez la condamnation de quelqu'un, en vertu de quoi vous réclamez tel dommage et intérêt. Vous devez dire en fonction de telle loi qui a dit si, étant donné que je suis dans ce cas-là, je réclame que le tribunal décide ça. Plaider, prier, c'est dire à Dieu, tu as promis ça. Je suis dans le cas, tu me le dois. Et comme tu es fidèle, comme tu es juste, comme ce que ta bouche a dit, ta main l'a compris toujours, Seigneur, je veux maintenant voir ce que tu as promis. On ne peut pas prier en partant de ses souhaits. Un de vos souhaits n'est éligible à la prière que quand vous arrivez à voir en quoi il correspond à une promesse de Dieu. Si vous avez envie de quelque chose qui ne correspond en rien à ce que Dieu a promis, mettez ça à la poubelle, ce n'est pas la peine de présenter ça à Dieu. Écrivez bien ça. Si vous avez une requête de prière et vous ne pouvez pas voir sur quelle parole de Dieu elle s'appuie, ce n'est pas la peine de prier, Dieu ne vous exaucera pas. Vous voulez que votre voisine meure parce qu'elle fait la maligne. Il n'y a pas de requête possible. Il n'y a rien dans la Bible où Dieu a promis de faire tuer ou de tuer les gens qui vous énervent.
Dieu a promis de vaincre ceux qui vous attaquent. Il a promis de tuer les gens qui vous persécutent. Il a promis de tuer les gens qui veulent votre mort. Mais nulle part, Dieu n'a dit que vous êtes jaloux de quelqu'un, vous pouvez l'invoquer pour qu'il en finisse avec la personne. Nulle part, Dieu n'a promis que si la voiture de ton voisin te plaît, ça suffit pour dire, Seigneur, comme tu lui as donné, donne-moi aussi. Ça ne fait pas partie de la promesse de Dieu. Vous devez savoir que prier, c'est réclamer à Dieu ce qu'il a promis. Et si vous voulez prier avec autorité, si vous voulez prier avec foi, parce qu'une prière sans foi ne peut pas être exaucée, vous ne pouvez partir que de ça. Quelle parole de Dieu me promet, légalise ma requête? Je la prends et je dis à Dieu, en vertu de cette loi-là, parce que ta parole c'est la loi, je suis au tribunal de la vie, je réclame telle. Et vous devez savoir que quand vous réclamez les choses, l'accusateur va venir pour dire, ne lui donnez pas. Ne lui donnez pas pour. Il va plaider. Il va plaider vos péchés. Il va plaider votre irresponsabilité. Il va plaider tout ce qu'il peut plaider. Vous demandez à Dieu de l'argent, Satan va dire, Seigneur, il n'a pas payé sa dîme. Il n'a pas fait d'offrande. Un garçon avait besoin de 100 francs, il avait 10 000 en poche, il ne lui a pas donné. Donc maintenant qu'il a besoin, ne lui donne pas. Parce que tu as dit qu'on traitera les gens comme ils traitent les autres. C'est ça, le tribunal. Dieu va dire, petit, c'est vrai, tu vas baisser la tête. Maintenant, si tu ne connais pas la procédure au tribunal, le fait que Satan t'accuse comme ça, tu baisses la tête, le procès se termine. Dieu ne te donne pas. Mais si tu connais la loi, tu sais que même si tu es coupable, tu as aussi droit à la défense. Et ton avocat est là. Tu sais que ton avocat a sur lui une loi d'amnistie. Tu sais que ton avocat a déjà fait une procédure en vertu de laquelle, pour peu que tu fasses, un peu comme on fait en Côte d'Ivoire au Rwanda, vérité et réconciliation, pour peu que tu aies dit la vérité, pour peu que tu aies dit je suis coupable, pour peu que tu aies dit je suis en train de vous demander pardon Seigneur, tu es absous de tous tes péchés. Donc là où l'accusateur dit il ne mérite pas, ton avocat peut dire, au nom de l'opération Jésus que j'ai menée, au nom de mon sang qui a coulé à la croix, et parce qu'il a confessé, il a cru que je suis Seigneur et Sauveur, il mérite qu'on oublie ça. Dieu va dire, Satan, tu as quelque chose contre ça? Est-ce que tu n'as pas à trouver dans ma parole une loi en vertu de laquelle je ne peux pas exaucer, je ne peux pas accéder à cette requête de clore cette procédure si tu n'as pas procédure close? Revenons maintenant à la requête de mon petit. C'est ça le tribunal de la vie. Pourquoi Dieu dit que quand vous êtes en train de prier, que vous rappelez que vous avez quelque chose contre de vos frères, vous devez vous arrêter, aller vous mettre en paix avec lui et revenir? C'est une question de procédure. Parce que sinon, dans la procédure de votre exaucement, Satan va invoquer un moment cela. Dans la procédure de votre exaucement, Dieu peut envoyer votre bénédiction, la réponse à votre prière par cet ami avec qui vous êtes en dispute. Vous ne le verriez pas? Vous ne le verriez pas? Obéir à Dieu n'est pas un luxe. Ce n'est pas parce qu'on a envie d'obéir à Dieu qu'on obéit à Dieu. Quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, qui compte sur Dieu, c'est comme un avocat qui ne lit jamais la loi et qui va au tribunal pour plaider. C'est un irresponsable. Il faut être irresponsable pour aller au tribunal défendre un dossier sans connaître la loi qui régit le dossier. Que tu aies raison ou tort, ça ne change rien. Que vous soyez coupable ou pas, ça ne change rien. Jésus a payé pour vos péchés. Mais ce qui change quelque chose, c'est que savez-vous de la loi? Si vous connaissez la loi, vous appliquez la loi, vous gagnerez. Vous gagnerez. Et donc, si nous revenons à notre sujet, les gens croient que c'est un luxe que de mettre le ciel en fête. Pourquoi vous croyez que les hommes politiques sont prêts à tout pour avoir un poste ministériel? Pourquoi vous pensez que les gens passent tout leur temps dans les villages à faire des cérémonies de remerciement, je ne sais quoi d'autre, pour être nommé DG? Il n'y a rien d'autre à faire que de réjouir le chef pour qu'il leur donne une mission. Quand le chef n'est pas content de vous parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui lui plaît, il ne vous donne rien. Même si tu ne vas pas le voir pour lui poser des questions, le jour où tu démontres à un chef que tu es capable de mobiliser du monde, tu peux commencer à discuter avec lui. Et plus tu es capable de mobiliser du monde, parce que tu sais que le monde réjouit le chef, plus tu peux demander gros à un chef. Si tu peux démontrer à un chef que tu maîtrises 1 million de personnes, tu peux commencer à dire, moi je veux un poste. Il n'a pas trop le choix. S'il ne veut pas te donner, il va te demander de donner quelqu'un qui va nommer pour toi. Mais il est obligé de donner quelque chose. Mais quand tu n'as rien à lui proposer, tu ne peux pas dire que tu es en train d'attendre quelque chose du chef. On est d'accord? Mais c'est valable avec Dieu. Pourquoi vous croyez qu'on peut passer le temps à demander des choses à Dieu sans jamais regarder ce que Dieu veut. Pourquoi vous croyez ça? Et le mépris que les chrétiens ont pour le service à Dieu, pour le fait de tenir compte et d'obéir à la parole de Dieu, est proportionnel au peu d'exaucement qu'ils ont. Mais regardez quand même, le Bénin est un pays très spirituel, ou je dirais très religieux. Vous ne voyez pas qu'il y a une incohérence entre la quantité de prières, de cultes, de délivrance, de tout, je ne sais même pas. On a fait des montagnes, on a fait des cérémonies de délivrance, on a fait des prières, on a chicoté Satan, on l'a giflé, on lui a arraché les dents, on a tout fait. Mais est-ce que les problèmes des gens se sont arrêtés? Vous n'avez jamais demandé pourquoi les gens passent tant de temps que ça à l'église et qu'ils sont de plus en plus pauvres? Vous n'êtes pas demandé? Moi, je dis dans la vie, il faut être intelligent. Si vous voulez venir à l'église, vous voulez être des chrétiens, pour faire comme tous les chrétiens, ce n'est pas la peine de rentrer dans vos maisons, aller dormir, parce que vous perdez votre temps. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si les gens sont chrétiens depuis 20 ans, vous les voyez, au lieu d'avoir prospéré, ils ont régressé dans la vie. Ce qui est anormal dans le Seigneur. Vous ne voyez pas que quand on regarde aux églises, les gens décroissent. Ou bien c'est moi seul qui remarque ça. La misère grandit dans l'église. Le malheur grandit dans l'église. La maladie grandit dans l'église. Les guerres de personnes grandissent dans l'église. Est-ce que c'est normal que là où Dieu est, les problèmes se multiplient? Ça dit que Dieu n'est pas là. Il y a des endroits dans la Bible où Dieu dit aux gens, je me suis retiré de ce temple-là, je ne suis plus là. Dieu n'est pas dans toutes les églises. Dieu est là où on l'adore. Il est là où on le loue. On ne peut pas louer quelqu'un, faire le contraire de sa volonté. Si vous voulez que Dieu s'occupe de vous, il n'y a qu'une seule manière de faire. S'occuper des affaires de Dieu. S'occuper des affaires de Dieu, ce n'est pas par pitié pour Dieu. Ce n'est pas par pitié pour les gens vers qui Dieu nous envoie. Considérez que ce n'est même pas égoïsme. Quand on ne veut pas jouer un jeu, on ne monte pas sur le terrain. Vous ne pouvez pas venir à Dieu, vous en foutre de tout ce qui plaît à Dieu et perdre votre temps à prier, parce que j'appelle ça perdre son temps à prier, en prétendant que Dieu va vous bénir. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. Et je considère que c'est la perte de temps que d'enseigner la parole de Dieu à des gens qui ne sont pas pressés de l'appliquer pour être bénis. Si des gens, le Seigneur nous dit, heureux êtes-vous si vous avez entendu ces choses, pourvu que vous les mettiez en application. C'est ça qu'on ne dit pas assez à l'église. Le jour où je vais mettre une banderole ici, ça va être ça. Heureux êtes-vous d'avoir entendu ces choses, pourvu que vous les mettiez en application. L'église n'est pas un cinéma hebdomadaire où on va écouter le prêtre faire son sermon ou le pasteur faire son discours. Et on rentre, on dit alléluia. Aujourd'hui là, le pasteur il a prêché. Oubliez ça. Ça n'a jamais sauvé personne. C'est une école où vous devez apprendre des techniques, où vous devez apprendre les lois de la vie, celles que vous devez appliquer pour transformer votre vie. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets avec Dieu. 1 + 1 = 2 avec Dieu. Si vous voulez un résultat, vous devez appliquer la formule. Donc vous lisez la Bible. La Bible est pleine de si, 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 si. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu m'obéis, tu mangeras les meilleures positions du pays. Si tu ne m'obéis pas, voilà ce qui t'arrivera. Si tu adores ton père et ta mère, tu auras des jours heureux. Si, 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 si. Les chrétiens s'intéressent à la promesse et s'en foutent toujours du si. Si tu es en mathématiques, tu veux résoudre une équation et tu ne veux pas tenir compte des conditions de l'équation, comment tu peux la résoudre? C'est vrai qu'il peut y avoir des littéraires parmi nous, mais quand on dit si là, c'est que sans le si là, le reste ne marche pas. Oui.
Amen.
Voilà. Okay.
Moi, la Bible me dit ici que dans 1 Jean 2:1, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.
D'accord. C'est quoi la question?
La question est celle-ci. Si tant est que Christ est venu pour donner sa vie pour nous, c'est en nous ayant justifiés par sa mort à la croix. Est-ce que les si, si, si qui existaient dans l'Ancien Testament ont toujours leur ordonnance sur notre vie. Parce que la Bible est claire, elle dit que si quelqu'un pêche, Christ est un avocat qui intercède permanemment pour nous. Donc il suffit d'invoquer cette loi-là pour que mes péchés me soient pardonnés.
Merci. Alors, ce qui est bien, c'est que vous êtes un juriste. Nous avons tous des avocats. En tout cas, ceux qui ont un peu de moyens, des avocats, et ceux qui n'en ont pas, un peu tout leur commet d'office. Quand vous êtes accusé au tribunal d'une affaire, quelle qu'elle soit, est-ce que le fait de vous donner un avocat vous garantit que vous serez acquitté? Si vous avez un problème avec quelqu'un, vous demandez un dommage et intérêt de 10 millions, c'est parce que vous avez un avocat qui vous a commis que vous allez avoir les 10 millions? L'avocat fera de son mieux, en vertu de la loi, pour vous en sortir. Mais il te dira souvent, dis-moi d'abord la vérité. Et puis il va te dire, mais là tu as déconné. Un vrai avocat, évidemment, c'est parce qu'il y a tellement d'escrocs que vous ne saviez plus ce qu'un vrai avocat. Un vrai avocat, mes frères juristes, là, comme je vous le dis souvent, ce n'est pas un menteur. Ce n'est pas un menteur qui, alors que vous êtes coupable, va aller dire qu'il est innocent. Jésus a fait acquitter l'humanité sans jamais faire un seul mensonge. Il a plaidé la culpabilité. Il n'a même pas demandé la clémence. Il a été payé. C'est comme si vous avez détourné 10 millions. Votre avocat ne vient pas dire qu'il est innocent, le petit, libérez-le. Il dit, toi, combien? C'est 10 millions. Donnez, je paye. Ton avocat paye, tu sors. Le lendemain, tu détournes 15 millions parce que tu es un avocat. Tu vas rappeler le même avocat. Admettons même qu'il soit très gentil. Il va dire, il a volé combien cette fois-ci? 50 millions. C'est pas grave. Je paye, il sort. Tu es sûr que quand tu vas voler 100 millions, toi, tu vas avoir le courage d'aller voir l'avocat? Il va te dire, petit, il va te déconner. Cette fois-ci, je vais te laisser là-bas. Parce qu'il faut que tu apprennes. D'abord, ce n'est pas évident que l'avocat t'en sorte. Et même s'il pouvait t'en sortir, la Bible nous dit que qui aime bien châtie bien. Et que Dieu châtiera promptement ceux qu'il a élus et qu'il a scellés pour la rédemption. Quand je sais que j'ai scellé quelqu'un pour aller au ciel, je le châtie promptement. Quand il fait des bêtises, je lui applique des sanctions pour lui apprendre à ne plus pécher comme un enfant. J'ai même remarqué qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu est plus tolérant envers les païens qu'envers les chrétiens, ou en tout cas envers ceux qui le craignent. La grâce surabonde là où le péché abonde. Mais que nul ne s'y trompe. On ne se moque pas de Dieu, des lois de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera forcément. Il n'y a pas de prière au monde pour mettre du maïs en terre, prier, récolter des haricots. Il n'y a pas de loi au monde pour demander à Dieu de faire en sorte qu'un lion donne un lapin comme petit. Ça n'existe pas. Dans la Genèse, Dieu a dit, les espèces ont reçu le pouvoir de se multiplier. Chaque espèce donnant des choses de son espèce. C'est la loi de la semence et de la récolte. C'est une loi de Dieu. Ça fait partie des décrets de Dieu. Dieu ne révoque pas ses décrets. Si tu sèmes du haricot, il n'y a rien à faire pour ne pas récolter du haricot. Si tu sèmes du maïs, tu récolteras du maïs. Si tu sèmes de l'adultère, tu récolteras les conséquences de l'adultère. Si tu sèmes du vol, tu récolteras les conséquences du vol. C'est des lois de la vie. Que Dieu veuille te punir ou pas, c'est des lois de la vie. Et quand vous vous mettez sous le péché, vous vous mettez sous les conséquences des lois. Même si Dieu ne veut pas vous punir, les liens de cause à effet des péchés vous punissent. Dernière chose, pour fermer cette parenthèse, c'est que nous avons déjà vu ici, je ne sais pas, certains d'entre vous n'étaient peut-être pas là faisant école buissonnière, mais que l'un des enjeux du péché, c'est la protection de Dieu par rapport à Satan. Satan est tout le temps aux aguets, demandant comme avec Job, comme avec beaucoup d'autres personnes, à vous frapper, à vous détruire, à vous massacrer. Dieu l'en empêche par un genre de bouclier protecteur qui assure votre vie. Mais le problème, c'est le suivant. Quand vous vous mettez dans certaines dispositions, vous sortez de la zone de sécurité de Dieu. Et même si Dieu vous aime, vous vous offrez à Satan. Je donne souvent cet exemple. Regardez quand Balak et Malam, quand ce bandit-là, Balak, est parti demander au prophète de maudire Israël. Il est parti, il a voulu payer le prophète pour maudire Israël. Le prophète dit, j'ai bien envie de prendre ton argent, mais ce que Dieu a béni là, personne ne peut le maudire. Ces gars-là sont bénis par Dieu. Je ne peux pas te les maudire. Balak dit, je vais augmenter l'argent. Maudis-les parce que si tu ne les maudis pas, je ne peux pas les détruire. Balak a essayé, fatigué. Dieu dit, ça ne marche pas. Il a voulu forcer. Dieu a mis un ange qui était sur le point de tuer son âne. Il a eu la chance, l'âne n'a pas avancé. Sinon, Dieu était même prêt à le tuer parce que Dieu ne permettra pas que quelqu'un maudisse ce qu'il a béni. Ça veut dire que, quel que soit ce qui se passe, Dieu protège. Mais regardez la suite de l'histoire. Le prophète dit à Balak qui voulait le payer, c'est pas compliqué, jette la formule. Ce gars-là, leur Dieu-là, il les protège, c'est vrai. Mais je connais leur Dieu. Il est trois fois saint. Il déteste le péché. Le péché élève un mur entre les siens et lui. Quand on dit le péché élève un mur, c'est quoi? J'aime mon fils Paul Emmanuel. Je peux l'aimer n'importe comment. Je m'habille, je suis par exemple en bavin blanc, je m'apprête à aller à une émission à la télé. Je veux sortir, Paul Emmanuel sort de sa chambre, il vient de manger avec sa tata du haricot avec de l'eau rouge, il a même plein du rouge. Il court, il dit papa, 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 je vais pas le fêter d'abord. Je vais le laisser m'embrasser. C'est pas que je ne l'aime pas parce qu'il est sale. Mais comme il est sale là, il va me laisser partir d'abord, aller se laver et revenir. Même si je l'aime n'importe comment. Quand il est sale, quand il est dans la boue, alors que moi je suis trois fois saint, entièrement blanc, je ne peux pas l'embrasser quand il est dans la boue. Quand vous êtes dans le péché, Dieu vous aime n'importe comment. Il va élever un mur de vous et lui parce que vous ne pouvez pas le salir. Le Saint-Esprit en vous, vous l'amenez à jonquer. Vous croyez qu'il va rester dans la maison de passe avec vous à jonquer? Et va monter sur la prostituée avec vous à jonquer? Quand vous allez à jonquer, vous dites, Saint-Esprit, dégage, laisse-moi m'amuser un peu. Quand il dégage là, Satan fait de toi ce qu'il ne pouvait pas faire quand le Saint-Esprit était là. Voilà la vérité. On ne vous dit pas à l'église. Donc, Balak dit, je connais leur Dieu. Il déteste que ces gars-là se prostituent avec les femmes païennes qui font de l'idolâtrie. Trouve des femmes païennes. Envoie-les les courtiser. Elles vont les séduire. Ils vont coucher avec elles et elles vont commencer à leur donner des nourritures, des dieux idolâtres. Si tu arrives à faire ça, leur Dieu est obligé de lever sa main sur eux. Quand il va lever sa main sur eux, viens, nous allons les maudire. Quand ils ont fait ça, ça a marché, ça n'a pas marché. Dieu a levé sa main. Des milliers, en quelques minutes, des dizaines de milliers de gens sont morts. Heureusement, Dieu, qui aime ses enfants, a révélé que voilà ce qui a dû à cela. L'un d'entre eux a dû massacrer rapidement, tuer. Ceux qui avaient fait ça, immédiatement, la paix est revenue, la protection de Dieu est revenue. Dieu a un bouclier antimissile sur votre vie. Si vous l'ouvrez, le bouclier, pour laisser le péché rentrer, le péché vient, Satan en profite pour rentrer les malheurs. Vous ne pouvez pas dire, Dieu, tu étais où? C'est toi qui as ouvert la porte de ta vie pour prendre le péché. Quand le péché est là, la porte est ouverte, Satan va frapper. Il n'y a pas de prière pour empêcher Satan de rentrer par une porte que tu as ouverte volontairement. C'est ça l'enjeu de la sanctification. Il n'y a pas de progrès spirituel possible. Il n'y a pas de puissance spirituelle. Il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas de bénédiction pour quelqu'un qui ne fait pas de l'obéissance à Dieu la première des règles de sa vie. Si vous voyez un homme qui a des copines partout, il ne prospère jamais. S'il est riche aujourd'hui, de lui, deux ans, il va faire faillite. Regardez-les. Ils vont faire faillite. C'est ça qui a tué les transitaires au Bénin, entre autres. Ils vont faire faillite, il n'y a rien à faire. On ne viole pas impunément les lois de Dieu. Et donc, non seulement il faut obéir à Dieu, mais il faut réjouir le cœur de Dieu. Rappelez-vous toujours des hommes politiques. Ils se débrouillent pour faire plaisir à leur chef en faisant ce que le chef aime. C'est parce qu'ils font ce que le chef aime que le chef les remarque et leur donne les moyens d'en faire plus. Si sans avoir mes moyens, tu arrives à me mobiliser 1000 électeurs, je serais tenté de te donner des millions. Si quand je te donne 1 million, tu mobilises 10 000 électeurs, je vais dire, ah, ce petit-là est rentable. Donnons-lui 10 millions pour voir. Tu donnes 10 millions, tu mobilises 1 million d'électeurs. Je serais tenté de donner 1 milliard. Tu mobilises 1 milliard, tu prends tout le bénin pour moi. Je vais dire, ça, c'est un bon gars, je peux nommer Premier ministre. C'est comme ça que ça marche en politique. Et Dieu fait quoi? Dieu fait la politique de l'humanité. Il fait la politique du bonheur de l'humanité. Il veut des collaborateurs qui vont l'aider à gérer les choses, à impacter, à développer la limite de son royaume sur la terre. Si vous voulez être béni, vous êtes obligé de rentrer dans cette limite, dans cette logique-là, de réjouir le cœur de Dieu. Donc, Dieu veut que nous soyons pour la terre le sel et la lumière de ce monde-là. Nous allons essayer, pendant ce séminaire, de voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Vous allez à l'église, on dit les choses, vous entendez, alléluia, quoi, gloire à Dieu, vous dites des bêtises comme ça, vous n'écoutez pas les choses. Ça veut dire quoi? Vous êtes le sel. J'ai dit concrètement, ce n'est pas de la théorie. Est-ce que vous n'avez jamais arrêté pour dire ça veut dire quoi? Le sel là, ça veut dire quoi? La lumière, ça veut dire quoi? Et être sel et lumière pour le monde, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous demander concrètement? Il y a ça qu'il faut s'intéresser. Il faut s'y intéresser et il faut essayer de l'être. Si vous n'êtes pas ce que Dieu vous appelle à être, Dieu ne peut jamais vous bénir. Vous allez voir les Juifs dans le désert. En Jéricho, Dieu n'a pas donné le lait et le miel. Il va vous donner la manne.
Vous n'avez pas vu que vos vies ressemblent à des vies de quelqu'un qui est dans le désert? Vos vêtements ne s'usent pas? Vous n'êtes pas malade? Vous avez chaque jour le strict minimum pour ne pas mourir avec l'eau. Mais le lait ne vient jamais. Le miel ne vient jamais. Vous n'avez pas remarqué? C'est pour ça que l'Ancien Testament est une préfiguration prophétique du Nouveau Testament. Une génération tout entière de juifs est morte dans le désert, à part deux ou trois parmi eux. Même Moïse n'est pas entré à la terre promise. Le plus grand des prophètes de tous les temps, celui qui a donné la loi, n'est pas rentré à la terre promise. C'est pour ça que Paul nous dit, attention, nous qui sommes des enseignants, faisons attention, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Toute une génération est morte dans le désert. C'est-à-dire que, alors que Dieu voulait qu'il rentre dans le pays où coule le lait et le miel, le pays auquel vous aspirez tous, la majorité d'entre eux, disons eux tous, n'y sont pas rentrés. Toute une génération de personnes, ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est des gens que Dieu est parti sortir de la captivité. Il est parti les libérer. Il a ouvert la mer pour eux. Il a englouti Pharaon pour eux. Il a frappé tous les premiers-nés d'Égypte pour eux. Il a assombri le soleil pour eux. Il a assombri la lune pour eux. Regardez les miracles que Dieu a fait en Égypte. Dieu fait tout ça pour arracher des gens au monde, parce que l'Égypte c'est le monde. Il vous sort du monde. Vous donnez votre vie à Jésus. Il vous dit dans le désert, traversons en 11 jours le désert pour aller à Jéricho. Ils ont passé 40 ans dans le désert, ils sont morts dans le désert, ils n'ont pas vu Jéricho. Pourquoi? Ils se plaignaient tout le temps. Ils n'obéissaient pas. Ils n'avaient pas d'esprit de louange et ils ont manqué de foi. Dieu dit rentrer à Jéricho, il dit que Jéricho est trop compliqué. Que eux ne peuvent pas rentrer à Jéricho, Jéricho est trop compliqué. Dieu vous dit, vous allez prospérer, vous dit, c'est pas possible. Il ne faut pas raconter des histoires. Moi, tant que ma vie, là, je ne peux plus prospérer, il ne faut pas me raconter des histoires. Dieu dit qu'il t'en soit fait selon ta bouche. Tu as dit que je ne peux pas, non? Et Dieu ne l'aura pas. Quand vous êtes au creux de la vague, c'est le péché de la plupart des pauvres. C'est de dire en quelque sorte, ma blême est douée. Je sais que pour moi, c'est fini. Si Dieu peut dire, me donner le pain quotidien, ce serait pas mal. Dieu dit, parce que tu as dit ça, c'est ce qui t'arrivera. Ceux qui ont cru que moi, je peux encore les restaurer. Ceux qui ont cru que je peux prendre les gens dans la boue, les mettre à la table des rois. Ceux-là, Caleb et Josué, eux, ils vont entrer à Jéricho. Est-ce que vous croyez que vous pouvez être milliardaire? Est-ce que vous croyez que vous pouvez être la tête? Est-ce que vous croyez que vous pouvez être un leader? Est-ce que vous croyez que vous êtes béni? Est-ce que vous croyez que Dieu n'a pas fini de faire de grandes choses dans votre vie? Si vous ne croyez pas, vous n'êtes pas mieux que ceux qui sont morts dans le désert. Et Dieu aimait Moïse. Il n'y a aucun homme depuis Moïse auquel Dieu a parlé comme ça, face à face. Mais Moïse n'est pas rentré à Jéricho. Moïse n'est pas rentré à Jéricho. Sur une génération, deux personnes sont entrées à Jéricho. Alors qu'il les a tous sortis d'Égypte. Est-ce que vous voulez rentrer à Jéricho? C'est la question. Regardez, pour rentrer à Jéricho, ils ont dû s'armer. Ils n'ont pas combattu, ils se sont mis devant le mur. C'est Dieu qui a écroulé le mur de Jéricho lui-même. Mais dès que le mur s'est écroulé, les combats ont commencé. Josué a commencé à mener des offensives. Dieu lui avait donné tout Jéricho, tout le territoire. Mais il lui a dit, vous allez conquérir centimètre par centimètre ce territoire. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai en possession. Mais ne prenez pas tout le même jour. Vous ne pouvez pas tout gérer à la fois. Votre destinée est là. Dieu vous dit, les murs de Jéricho sont là. Ne vous inquiétez pas. Allez sur les murs. Dites, mais comment? Ce n'est pas votre problème. Quand vous serez devant le mur, l'ange de l'Éternel se présentera. C'est lui qui fera tomber le mur. Ce n'est pas votre problème. Le mur peut être fait comme Jéricho, 30 mètres. Les gens faisaient des courses de voiture dessus. Dieu dit, ce n'est pas votre problème. Croyez seulement que le mur peut tomber et avancer. Quand le moment viendra, gardez le silence. Ce n'est pas à peine de bavarder. Gardez le silence. Regardez le mur en gardant le silence. Fermez votre bouche. Si vous devez l'ouvrir, que ce soit pour louer Dieu. Et je vais m'occuper du mur. Je viendrai moi-même. Je prendrai personnellement le commandement de la guerre. Ce mur-là va tomber. Mais quand le mur de Jéricho est tombé, ça veut dire que maintenant le combat commence. Josué a commencé la guerre avec les siens. Ils n'ont jamais perdu aucune bataille, sauf une fois. Quand il y avait Akan dans leur rang. Une fois encore. Akan avait le péché. En prenant son Dieu, Dieu ne pas prendre. En volant un peu d'or et puis un habit. A permis que l'ennemi massacre des Juifs là où ils étaient partis pour gagner. Dès qu'on l'a tué et que Dieu a été consolé, ils ont commencé à gagner. Ils ont fait des batailles, ils les ont toutes gagnées. Mais ils ont conquis par des batailles chaque territoire de leur destinée. Ce n'est pas parce que Dieu te donne une grande destinée que tu vas dormir, que tu vas te lever un matin avec la destinée sur ton plateau d'or. Je suis désolé. Dieu te dit, voilà, c'est ton territoire. Voilà, c'est ta destinée. Voilà, voilà ta glorieuse destinée. Mais vas-y, tu vas la conquérir centimètre par centimètre. Tout lieu que tu attaqueras, je te donnerai la victoire si tu es en accord avec moi. Mais tu devras attaquer. Jéricho, les Josué, les gars ne vont pas dire, bon, maintenant que Dieu a coulé le mur, bon, on est ici, le pays va tomber dans nos mains. Non, il faut y aller. Il faut gagner bataille par bataille. Mais Dieu va vous faire gagner toutes les batailles. Mais vous devrez combattre. Et voici mon Dieu dit aux gens, allez-y, attaque-les. Te permettez qu'ils tombent en tes mains. Mais tu dois combattre. Si Dieu dit de combattre, tu ne combats pas. Il n'y a pas de victoire. Est-ce que vous êtes prêt à combattre? C'est pour ça que le problème des chrétiens, c'est la paresse. L'esprit de paresse est développé parmi les chrétiens. Sous prétexte qu'on accomplit les choses à Dieu, on est paresseux. On ne fait aucun effort. Sachez que la capacité de Dieu commence là où s'arrête la nôtre. C'est ça que la Bible dit, non? Dieu dit que sa capacité commence là où la nôtre s'arrête. Tout le monde a compris ça, veut dire que ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu peut le faire. Mais les gens n'ont pas compris ça, veut dire aussi que ce que nous pouvons faire, Dieu ne le fera pas. Écoutez bien, c'est français. La capacité de Dieu commence. La Bible n'a pas dit que la capacité de Dieu continue là où s'arrête la vôtre. La Bible a dit que la capacité de Dieu commence là où s'arrête la vôtre. C'est pas ça? Ça veut dire que tant que tu es dans le domaine de tes capacités, Dieu n'a rien à voir dedans. Si tu es dans ta maison, un enfant veut prendre un bonbon qui est devant lui, tu vas venir le lui prendre, il va te dire « Maman, laisse ». Tu vas même s'énerver. Tu dois laisser l'enfant faire tout ce qu'il peut faire. Quand l'enfant veut pas, l'enfant qui a quelque chose sur une étagère qui est très élevée, et il ne peut pas, c'est là où toi-même tu le vois, ou c'est lui qui t'appelle au secours, là tu t'emmènes. Mais si là où un enfant peut agir tout seul, tu veux l'aider, tu lui tapes sur les nerfs, tu ne fais rien de bon pour lui. Dieu est un bon père. Tout ce que vous pouvez faire, il ne t'emmènera pas. Je vois des gens, on dit par exemple, il y a le feu démarre dans ta maison. Au lieu d'éteindre le feu, tu dis, je prie pour demander à Dieu s'il veut que j'intervienne pour éteindre le feu, ou bien si il va éteindre lui-même, ta maison va brûler. Il t'a donné des yeux pour voir le feu. Il t'a donné un cerveau, il t'a donné une main, il t'a donné tout ce qu'il faut pour éteindre le feu. Ça veut dire que éteindre ce feu-là est parfaitement dans tes capacités. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas dans la capacité de Dieu. La capacité de Dieu commence quand toi, tu as fini tout ce que tu peux faire. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est d'attendre Dieu quand ils n'ont pas fini de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Tu es mal organisé, tes affaires ne vont pas mal, tu pries, d'accord. Mais commence à mettre de l'ordre selon tes capacités. Tu es un paresseux. Tu dors jusqu'à midi tous les jours. Commence à te réveiller tôt. Tu remets les choses que tu dois faire à demain. Commence à les faire aujourd'hui. Si tu ne fais pas tout ce qui relève de toi, Dieu ne fera pas tout ce qui relève de lui. Si tu es un père, on donne des calculs à l'école à ton enfant. Dès qu'il vient, tu prends son cahier, tu lui fais. Est-ce que tu es un bon père? Pourquoi vous croyez que Dieu est un père irresponsable? Il va vous laisser faire vos devoirs. Parce que vous devez être prêt à aller à l'examen. Si vous ne faites pas vos devoirs, papa ne va pas les faire pour vous. Et ces choses-là, il faut le savoir. Oui, je vous écoute.
Vous expliquez encore davantage le concept de pauvreté. Parce que dans nos églises, c'est-à-dire, on se laisse aller au fait que, bon, le chrétien, tu es sauvé, et la richesse sur la terre, tout ça, c'est le diable. C'est-à-dire, contentez-vous de ce que le contentement, c'est là. Quand ça, on rentre dans ce domaine, ce mot-là refait toujours surface. Le contentement de ce que nous avons. Il faut qu'on se contente de... Il faut qu'on... C'est-à-dire, la question que moi, je me pose, parce que quand je vous écoute, j'ai comme l'impression que il y a quelque chose qui cloche dans ma vie. Il y a quelque chose qui cloche en ce sens que parfois j'ai plus tendance à même abandonner parfois mes propres activités au profit des engagements que j'ai pris avec le Seigneur. Mais j'ai fait cet exercice plusieurs fois. Ma foi, je ne vois rien pointer à l'horizon. Maintenant, tel que vous êtes en train de parler là, c'est-à-dire, ma compréhension, c'est que vous êtes en train de me dire, Roméo, mon frère, c'est-à-dire, si tu as tes projets, si tu as ton organisation pour des choses, oublie tout, consacre-toi à ça et fonce dedans. C'est-à-dire, cela ne veut pas dire que tu n'es pas en train d'adorer Dieu, ne veut pas dire que tu n'aimes pas Dieu, mais plutôt, lève-toi et cours pour ta vie. Mais ce que moi, la compréhension que moi j'ai plutôt, c'est plutôt me lever et courir de l'autre côté. Bon, quitte à, comme vous avez l'habitude de le dire, de négliger les trucs séculaires que nous faisons, et je dois courir pour ça. Pour... Mais quand je vous écoute, vous êtes en train de m'exhorter. En résumé, Roméo, c'est-à-dire là où tu es venu là, mon frère, laisse cette histoire de blabla, commence par courir pour tes activités, pour que ça marche. C'est dans ça que Dieu se trouve. Donc j'aimerais que vous clarifiez encore davantage. Par exemple, dans mon église, depuis près d'un mois, à l'école de dimanche, on est en train d'enseigner sur les offrandes. Moi, je suis moniteur. Il y a un moniteur qui a posé la question le samedi passé de savoir que lui, qui il est, c'est-à-dire il est frustré que l'église ne parle que d'offrandes. Et il y a un autre qui répond en disant, mais au fait que, même si, parce qu'il dit quoi, on ne parle que d'offrandes. D'offrandes, il a comme l'impression qu'on est en train d'harceler les croyants pour qu'on puisse donner, pour qu'on puisse faire chose. Mais il y a quelqu'un qui l'a répondu en disant, mais au fait que la loi de donner, c'est-à-dire la loi même de la réussite et de la prospérité, se trouve dans le fait que tu apprends à donner pour recevoir. Et il a un adage qui dit en fond, si quelqu'un ne perd pas quelque chose en chemin, un autre ne peut pas venir sur le même chemin et ramasser ça pour dire qu'il a trouvé quelque chose par terre. Donc moi, j'aimerais que vraiment réexpliquer cette histoire-là pour que j'aie la paix. Ou alors, si c'est ce que je dis que je dois faire, dites-le moi clairement. Merci.
Ok, alors, je vais poser plusieurs questions. Il y en a auxquelles je ne pourrais pas répondre aujourd'hui, sinon on va sortir du séminaire. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont en train de se connecter au club. Et je pense que je suis en train de préparer une série de séminaires sur comment sortir du chômage en 24 heures, sur la prospérité. C'est des choses que je vais devoir réinsérer dans tous les cas très bientôt. Donc, patientez quelques jours. Alors déjà ici, qui sont ceux qui ont un travail, qui sont salariés ou qui sont à leur propre compte, mais qui ont des revenus? Personne n'est riche ici, moi même pas encore. C'est ça qu'on appelle la richesse. Mais qui ici a un revenu pour fonctionner? Qui n'est pas un chômeur, qui n'est pas dépourvu de revenus? Ceux qui travaillent, levez la main. Ceux qui travaillent, ceux qui ont une source de revenus, levez la main. Alors, ça veut dire que les autres, non. Alors, non, on va inverser. Qui sont ceux qui n'ont pas de source de revenus actuellement? Ceux qui sont au chômage actuellement. Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Je rends grâce à Dieu. Ça veut dire que c'est minoritaire. Quand on regarde le taux de chômage dans le pays, si au club Jésus pour réussir à ce faible taux de chômage, ça veut déjà dire qu'on est en train de réussir. Pour vous qui êtes au chômage, vous sortirez du chômage avant la fin de ce mois, dans tous les cas, au nom de Jésus. Le séminaire de la semaine prochaine sera un séminaire sur le chômage. Je suis fatigué de voir des chômeurs. Mon rêve a toujours été qu'il n'y ait pas de chômage au club Jésus pour réussir. Bon, donc je reviendrai sur les questions de chômage, de prospérité qu'on sort. Sinon, je vais sortir de mon thème. Mais ce que je peux vous dire, servir Dieu, ce n'est pas faire ce qu'on veut pour Dieu. Ce n'est pas courir pour Dieu. Ce n'est pas faire des choses compliquées pour Dieu. C'est être disponible pour que Dieu vous fasse faire ce qu'il veut. Cela veut dire quoi? Il y a des gens que Dieu appelle à le servir à temps plein. Ne faisant que ça, ne faisant qu'enseigner, ne faisant que prier, ne faisant qu'intercéder, ne faisant que guérir. Si c'est Dieu qui vous appelle à ça, il vous le fera savoir clairement, distinctement, et vous saurez bien à un moment donné que vous n'avez pas le choix que d'aller vers ça. Et quand c'est le cas, il organise les temps et les circonstances pour que votre bénédiction passe par là et nulle part ailleurs. Mais il y a des gens que Dieu appelle pour faire d'autres choses, pour exercer un métier, pour gagner de l'argent et bénir son œuvre, pour faire différentes choses. Parce que chacun de nous, dans la vie de tous les jours, a l'occasion de servir le Seigneur. Si je suis, par exemple, un simple formateur, même avant de connaître le Seigneur, je suis, par exemple, un formateur, je sais pas, en entrepreneuriat, j'aide des gens à sortir de la pauvreté. Je suis en train de servir le Seigneur. Si ce que vous faites pour un pauvre, c'est à moi que vous le faites. Si je suis magistrat, j'ai vu que les gens sont injustement enfermés, déférés, je suis en train de servir le Seigneur. Si je suis un médecin, je fais en sorte que des gens qui n'ont pas d'argent, on les soigne pour qu'ils ne meurent pas parce qu'ils n'ont pas la foi. Je suis en train de servir le Seigneur. Si dans mon milieu, dans ma famille, dans mon entreprise, ma vie fait en sorte que des gens sont séduits par le Seigneur, viennent au Seigneur, je suis en train de servir le Seigneur. C'est le Seigneur qui décidera pour chacun
Et à chaque moment de la vie, parce que ça varie, le Seigneur peut vous appeler aujourd'hui à vous occuper de vos affaires ou de votre travail, et c'est tout ce qu'il demande de vous, témoigner de lui au quotidien, faire du bien et consort. Mais un jour, de voir du Père, il veut faire, maintenant tout ça, ça suffit. Tu passes de l'autre côté, tu ne fais que ça. C'est le Seigneur qui décide librement ce qu'il fera faire à chacun de ses serviteurs quand il veut. Donc, il ne faut pas se dire, je suis devenu chrétien, je laisse tout pour m'occuper de Dieu, ou je suis devenu chrétien, je n'ai pas besoin de m'occuper de Dieu, je fais tout ce que je veux. La vraie question c'est, Seigneur, aujourd'hui là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut rester dans la volonté de Dieu et il faut rester dans les temps et les circonstances de Dieu. Il y a un moment pour chaque chose. Dieu peut vouloir que vous fassiez quelque chose. Je donne un exemple. Dieu peut te dire, tu vas être président de la République. Il ne t'a pas dit que c'est en 2016. Si en 2016, tu es candidat, on va te battre à plat, tu vas dire, mais Dieu m'a dit que j'allais être président. Et puis Dieu t'a dit que tu vas être président en 2016. Il t'a dit que tu vas être président. Quand l'heure viendra, tu sauras que l'heure est venue. Et lui-même va te faire y aller. C'est parce que tu as eu un rêve et que 10 personnes t'ont dit, Dieu me dit, te dit que tu vas être président. Ce qui peut être vrai, qu'en 2007, tu vas être candidat. Je suis en train de dire par là qu'il faut avoir le discernement du moment et de ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut n'est pas toujours ce que nous voudrions. L'une des grandes erreurs que nous faisons quand nous sommes au Seigneur, c'est de vouloir impressionner le Seigneur par nos œuvres. Le Seigneur ne veut pas qu'on se fatigue pour lui. Il m'a appris récemment une chose importante. Il m'a dit, quand j'appelle quelqu'un, ce n'est pas ses capacités que j'appelle. Ce n'est pas sa force que j'appelle. Ce n'est pas son agilité que j'appelle. Aucun de vous n'est rien devant moi. Ce que j'appelle en quelqu'un, c'est son cœur. Dieu veut des gens disponibles pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Il ne veut pas des gens qui ont des capacités. Dieu n'utilise pas la capacité de quelqu'un. Dieu prend quelqu'un et lui donne ce qu'il veut pour faire ce qu'il veut. Même à moi-même, c'est arrivé. Dès qu'on vient au Seigneur, on a envie de créer plein de choses, d'initier plein de choses, d'impressionner le Seigneur. Le Seigneur ne demande pas ça. À un moment, il va vous dire, calmos. Quand vous allez écouter beaucoup de grands hommes de Dieu, ils ont tous ce témoignage-là. Ils ont passé parfois des années de leur vie à faire des grandes choses. Des grands projets, des grandes choses. Et un jour, Dieu dit, tout ce que tu as fait, c'est bien, mais je ne t'ai pas demandé ça. Est-ce que par hasard, tu as envie de faire ce que moi, je veux, le détachité? Oui, fais-moi ci, fais-moi ça. Des choses très bien. Mais Dieu dit, le bien n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu veut quelque chose. Il sait ce qu'il veut. Si vous êtes un serviteur de Dieu, vous devez écouter les oreilles, le temps des oreilles, écouter Dieu et faire ce qu'il vous dit de faire. Et ce qu'il vous dit de faire n'est pas toujours logique. Quand vous allez vouloir faire ce qu'il vous dit de faire, le monde peut se moquer de vous. Mais vous ne pourrez aller loin que qu'à un moment donné, vous écoutez Dieu et que vous faites à cet instant précis ce qu'il vous demande de faire. La prière que vous pouvez faire dans votre cas, c'est demander au Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi? Que veux-tu que je fasse? Mets-le-moi à cœur, organise les temps et les circonstances pour que je les découvre et que je le fasse. À cet effet, il faudrait être très patient, première chose. Deuxième chose, il faut être en train de s'occuper en faisant ce qu'on a à faire, normalement, s'il n'y a pas de problème. Et quand l'heure sonne, vous ne pouvez pas manquer ça. Dieu vous fera savoir s'il veut que vous changiez la danse, vous le saurez. Et derrière, quand il vous l'a dit, si vous ne le changez pas, c'est lui-même qui va tout fermer. Dans tous les cas, vous viendrez, vous allez faire très bien. Donc, n'ayez pas peur de manquer le rendez-vous de Dieu. Le moment venu, il vous fera savoir distinctement s'il vous attend dans un ministère. Mais cela n'empêche que tous les jours, on peut, quoi qu'on fasse, servir Dieu. Et ce que nous allons voir, pour la prospérité, je reviendrai là-dessus. C'est une question importante. Je crois que ça vaut un séminaire. On va revenir là-dessus plus amplement. Oui? Je paye la dîme sur de la manne, de toute évidence. Mais ce n'est pas le sujet, on y reviendra. Vous devez faire de me dire quoi? Comme vous avez la manne, pas encore beaucoup, vous ne devez pas faire de dîmes. Eh bien, Dieu dit qu'à celui qui est fidèle dans les petites choses, il en donnera de grandes. Si dans la petite manne, vous n'êtes pas fidèle, il ne vous rendra pas milliardaire. Parce que si vous avez 1000 francs, il est plus facile de donner 100 francs sur 1000 francs que de donner 10 millions sur 100 millions. Il est plus facile de donner 10 francs sur 100 francs que de donner 100 millions sur 1 milliard. Celui dont le cœur est tel qu'il a peur, il a du mal à donner 100 francs à quelqu'un qui a 1000 francs, ne peut jamais donner 100 millions quand il a 1 milliard. Et Dieu le sait. Donc si vous n'êtes pas capable de donner 10 francs sur 100 francs, Dieu sait que vous n'êtes pas capable de donner 100 millions sur 1 milliard. C'est vous qui croyez le contraire. Et vous ne pouvez pas blaguer Dieu. Il a dit, c'est écrit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui en donnera de grandes. On va continuer. Lisez-moi Matthieu. Matthieu 5, du verset 13 au verset 16. Écoutez bien.
vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa valeur, sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus à rien. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que notre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Merci. Alors, Jésus dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Mais que si, en tant que sel de la terre, nous perdons notre saveur, avec quoi est-ce qu'on va nous le rendre? Si le sel n'est plus salé, le sel sert à saler des choses. Donc, quand quelque chose n'est pas salé, on utilise le sel. Maintenant, si le sel même n'est pas salé, avec quoi on va le saler? Comme il n'est pas possible de saler du sel qui n'est pas salé, quand le sel se retrouve à ne pas être salé, on ne peut que le jeter. Il ne peut pas faire d'engrais, il ne peut rien faire, on ne peut que le mettre à la poubelle. Ensuite, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et il demande, est-ce qu'on allume une lumière, une ampoule, un lampion? On le met par terre, puis on met le seau, on le couvre dessus. Ou bien on allume une lanterne, on en fait dans un placard. Ou bien on est au salon, on allume la lanterne, et puis on laisse ça dans la chambre à coucher, on ferme la porte, et on est dans l'obscurité au salon. Quand on allume une lampe, quand on a quelque chose qui est en hauteur sur une montagne, ce n'est pas pour que la chose soit cachée. C'est pour la mettre de la manière la plus visible possible, à l'endroit de la maison où elle va éclairer le mieux un maximum de personnes. C'est à ça que sert une lampe allumée. Que donc, en tant que lampe, en tant que lumière, les enfants de Dieu doivent éclairer le monde. Et la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est qu'en étant un vrai sel pour la terre, en étant une vraie lumière pour le monde, vous allez faire de bonnes œuvres dans la vie des gens. Et parce que vous allez faire de bonnes œuvres dans la vie des gens, ils vont, c'est ça la finalité de toute l'analyse, ils vont glorifier Dieu. Dieu veut être glorifié. Comme je dis toujours, regardez par exemple quand, quels que soient les gens, même s'ils sont des païens, si vous êtes là, vous faites un accident et puis un camion vous écrase et vous traîne sur 200 mètres. Votre voiture est complètement aplatie, on ne peut même rien récupérer dedans. Tout le monde se tient la tête, les gens baissent la tête, personne ne veut regarder. Parce qu'on sait qu'on va ramasser au mieux votre bouillie. Impossible de survivre à ça. Vous vous levez sans aucune égratignure. Qu'est-ce que les gens disent? Première question que tout Benoît vous posera. Ma ou t'es annoncé. C'est-à-dire que la manière dont vous en êtes tiré veut dire en une phrase, ce gars-là, il a un Dieu qui est fort. Quand les gens t'attaquent au boulot, les gens t'attaquent en famille, ils t'envoient tous les missiles possibles et inimaginables et rien ne marche. Ils trouvent toujours une manière diplomatique ou non de te demander, mais tu fais quoi? Tu es dans quoi? Est-ce que tu es un sorcier? C'est-à-dire que leur échec sur ta vie leur envoie le message que toi là, tu as un Dieu qu'il vaut mieux connaître. Les gens glorifient Dieu à travers notre vie. Quand il dit par exemple, vous marcherez dans le feu, mais il ne vous brûlera pas. Prenez l'exemple d'Abed, Meshach, Négro et consorts. Si rien ne leur était arrivé, on n'en parlerait pas aujourd'hui et nous n'aurions pas l'un de nos meilleurs exemples de la démonstration de la puissance de Dieu. Il a fallu que ces gars-là soient persécutés, qu'on les mette dans un four chauffé à blanc, qu'ils soient prévus pour calciner, pour être incinérés comme de la poussière. Et ils restent dans le feu des heures. Ils sortent, ils ne sortent même pas la fumée. Alors que le feu est chaud et que ceux qui ouvrent la porte sont même brûlés. Eux, ils sortent, ils n'ont pas de grature. Ils n'ont pas transpiré. Ils étaient dans la fraîcheur. Alors qu'on voyait bien que c'était un four. Leur présence dans le four et leur sortie du four a glorifié Dieu. Le roi après ça dit que désormais, le roi, le Dieu de que ces gars-là soient le Dieu adoré par tout le monde sur mon territoire. Le roi qui était prêt à les tuer, quand il a vu comment, tout en étant dans le feu, ils en sont sortis indemnes, ce roi-là a dit que désormais, le Dieu de ces gars-là qui a survécu va être son Dieu, le Dieu de tous ses citoyens, que ça leur plaise ou non. Quand Dieu permet que vous subissiez des épreuves, c'est aussi pour le glorifier. Quand on envoie un soldat ou quand on envoie des commandos à la guerre, on sait qu'ils vont prendre des coups, on sait qu'ils vont avoir peur, on sait qu'ils risquent la mort. Mais un commando américain qui va à la guerre, il va à la guerre pour glorifier son pays. Son pays lui donne les armes, lui donne les équipements, lui donne la protection militaire, le renseignement, les drones, tout est à sa disposition pour qu'il n'échoue pas. Évidemment, il va avoir peur. Quoi qu'on dise, il risque sa vie. Mais il risque sa vie. Quand il s'en sort, le fait de s'en sortir fait dire que les Américains, là, c'est le plus puissant au monde. Si les Américains te disent que tu as deux jours, il vaut mieux te ranger parce que la puissance américaine est terrible. Comment on sait que la puissance américaine est terrible? On sait que la puissance américaine est terrible parce que des Américains ont risqué le feu pour démontrer la puissance de l'armée américaine. Comment saura-t-on que votre Dieu est puissant si vous ne passez pas dans le feu? Comment saura-t-on que votre Dieu est puissant si vous ne passez pas dans le feu? Dieu a promis quelque chose aux croyants qu'il ne veut pas entendre. Dieu n'a jamais dit aux croyants que si par hasard ils rentrent dans le feu, ils ne seront pas brûlés. Hein. Dieu vous a promis que vous allez être dans le feu. C'est une promesse. Et la foi, c'est de croire toutes les promesses de Dieu. Ce n'est pas inconditionnel. Lisez, c'est pas mis. Si vous rentrez dans le feu, il ne vous brûlera pas. Ou bien, c'est mis. Vous marcherez, c'est un affirmatif, dans le feu, mais il ne vous brûlera pas. Vous serez sur les eaux, mais ils ne vous submergeront pas. 1000 tomberont à votre gauche, 10 000 à votre droite, c'est des promesses fermes. Mais vous, vous ne serez pas atteints. Dieu vous promet que vous allez avoir des problèmes. Il dit ici, quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Vous ne pouvez pas glorifier Dieu en jouant un chanteur d'enfants seulement, comme on aime le faire dans nos églises. Ça, là, c'est bon. Mais la vraie manière d'adorer et de glorifier Dieu, en esprit et en vérité, c'est de déposer sa vie sur l'autel pour que votre vie glorifie Dieu. Pour que votre vie glorifie Dieu, elle doit passer dans les épreuves où les hommes seront sûrs que, normalement, là, pour vous, c'est fini. Humainement, c'est fini. Et là où ils sont sûrs que c'est fini, Dieu montre que c'est maintenant que ça commence. Là où les hommes ont dit la capacité est terminée, Dieu dit c'est maintenant que moi, je commence. Quand ça commence, ça doit être fini. Les gens disent, comment s'appelle ton Dieu? Et c'est pour ça que Dieu enverra toujours les gens qui le servent dans le feu. Plus un commando est fort, plus on l'envoie à la guerre. Si tu es un soldat ventu, tu n'es bon à rien, personne ne va t'envoyer là où il y a des problèmes. Mais si tu es un élément du GIGN, dès que quelqu'un touche quelque part, c'est toi qu'on envoie. Plus Dieu t'aime, plus il va t'envoyer au front. Plus un général t'aime, plus il va te confier des missions commando. Plus tu auras donc des risques de mourir, mais plus tu seras glorifié. La question c'est que, quel genre de soldat voulez-vous être? Voulez-vous être des soldats ventrus de Dieu, réfugiés au camp ghetto? Ou voulez-vous être des commandos, des BIS, des GIGN de Dieu? C'est la question. Vous voulez manger du gari, manger du pain, boire de l'eau tous les midis? Dans des camps qui ne savent même pas ce qu'on appelle la guerre? Ou bien vous voulez être des commandos d'élite? S'enfermer à l'église tous les dimanches, c'est être comme au camp ghetto là. Ils ont des livres, ils ont des dortoirs, ils font un peu de footing le matin, ils jouent au ballon, une fois par an, ils font le défilé militaire. À part ça, là, ils n'ont rien de guerrier. Regardez quand il y a eu la crise au Mali. Les armées de tous nos pays sont parties là-bas, c'était que du vent. Tout le monde disait, il y a une seule armée qui tient le coup, l'armée tchadienne. C'est des gars qui sont habitués à combattre, ils sont dans le désert, c'est des redoutables guerriers. Quand l'armée tchadienne vient quelque part, on sait qu'il y a une armée qui est sur le terrain. Quel genre de soldat de Dieu vous voulez être? En sachant que le niveau de soldat que vous êtes déterminera vos bénédictions. Dieu vous utilisera plus, mais il vous élèvera plus. Si nous en venons là, première chose en partant du bas, la finalité d'être le sel et la lumière du monde, ce n'est pas d'abord pour vous. Ce n'est même pas d'abord pour les gens, même si c'est pour les gens de manière intermédiaire, c'est d'abord pour Dieu. C'est ce que vous faites en tant que sel du monde. C'est ce que vous faites en tant que lumière du monde qui glorifie Dieu. L'amour que les gens auront pour Dieu dépend de ce que vous faites pour les gens. C'est ça que ça veut dire. Si les chrétiens avaient le comportement que Jésus leur demandait d'avoir, tous les païens auraient couru à l'église depuis. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Tout va mal. Les temps sont durs. Rien ne marche. La situation ne peut pas être pire dans le monde globalement et au Bénin en particulier. C'est des moments où les gens veulent une solution. La Bible nous dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des vrais enfants de Dieu. Quel pays du monde aujourd'hui ne veut pas un sauveur? Un genre de Moïse qui arrive, qui parle à Dieu, qui règle tous les problèmes. Quel pays du monde ne veut pas un Josué aujourd'hui? Quel pays du monde ne veut pas un grand enfant de Dieu qui arrive, qui a des idées extraordinaires, qui transforme les choses, qui vainc la maladie et qu'on sort? Qui au monde ne veut pas rencontrer un vrai enfant du Dieu, capable de faire les miracles de Jésus, capable de multiplier le pain, capable de nourrir les gens, capable de pardonner les gens, capable de donner à manger, capable de donner la joie, capable de restaurer, capable de même les prostituer? Quel pays du monde, quel citoyen, quelle que soit sa méchanceté, quel sorcier, quel féticheur ne tomberait pas à genoux d'admiration devant un tel enfant de Dieu qui manifeste cette onction, qui manifeste cette puissance? Regardez les actes des apôtres. Les Pierre, les Paul et consorts ont fait de grandes choses pour Dieu parce qu'ils avaient de grands dons. La puissance de l'évangile était proportionnelle à la puissance de ce que les chrétiens étaient capables de manifester. Les Pierre passaient, quelqu'un 30 à l'heure, il était guéri. Les gens touchent leur mouchoir, ils sont guéris. Paul maudissait les sorciers, ils durcissaient debout. Comment vous imaginez qu'un gars comme ça arrive au Bénin aujourd'hui? On a besoin de faire des campagnes d'évangélisation pour que les gens viennent au Seigneur. Si on a du mal à voir les chrétiens à l'église, c'est parce qu'il n'y a plus de vrais chrétiens. Il n'y a plus de miracles à l'église. Il n'y a plus de révélations. Il n'y a plus d'onction. Il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus de guérison. Oh, Dieu ne change pas. Le Dieu qui faisait ces choses-là n'est pas mort. Le Saint-Esprit n'est pas mort. Il est là, attristé par des gens qui font des réunions comme des groupes ésotériques tous les dimanches entre eux. Ils maudissent le monde. Ils insultent les païens. Et il se donne rendez-vous à dimanche prochain. Où est-ce que Jésus nous a demandé ça? Dans tous les commandements de Jésus, vous avez vu quelque part, retrouvez-vous tous les dimanches, priez, adorez-moi, louez-moi. Vous avez vu ça quelque part dans la Bible? Est-ce qu'il y a ça quelque part dans la Bible? Où Dieu a dit que tous les dimanches, il faut qu'on se retrouve et qu'on chante, qu'on danse, qu'on l'applaudisse, qu'on le loue. Je ne dis pas que ce soit mauvais. Mais pourquoi ce qu'il n'a pas dit qui est bien, nous le mettons en priorité sur ce qu'il a clairement dit? Il a dit, allez, dans votre ville, dans votre département, dans votre pays, dans votre continent, jusqu'aux extrémités du monde, allez faire des nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le commandement. Apportez-leur la lumière, apportez-leur la saveur, apportez-leur la joie. Que quelqu'un m'ouvre Ésaïe 61. L'onction, c'est quoi? La puissance de Dieu n'est pas une chose qu'on prend pour l'utiliser. Là, il y a puissance de Dieu, il y a onction. Quand parce que vous êtes en train de faire ce que Dieu vous a demandé, Dieu vous donne une capacité de bien le faire. L'onction ne se manifeste que quand on est en train de faire ce que Dieu veut. Si Dieu te dit de guérir les gens et tu veux chanter, tu n'as pas d'onction pour chanter. Mais quand tu prends quelqu'un, tu veux le guérir, tu dis maintenant on y va. C'est ça que je t'ai demandé. Parce que tu es là, je te donne la puissance, tu vas le guérir. Si quelqu'un ne fait pas ce que Dieu lui a demandé de faire, il n'aura jamais d'onction pour le faire. L'onction, c'est la capacité que Dieu vous donne de faire ce qu'il vous a commandé. Si vous ne faites pas ce que Dieu vous a demandé, vous ne recevrez jamais, vous ne manifesterez jamais d'onction. Le Saint-Esprit est pressé d'avoir des enfants rééquipés, des enfants zélés, des enfants puissants. Regardez toutes les bêtises qu'il y a dans notre pays. Les diables qui se font passer pour Dieu, les idolâtries qui se multiplient, la pauvreté qui se multiplie. Dieu est pressé de voir des enfants se lever, rentrer dans ce pays-là, apporter aux gens la joie, apporter aux gens la solution, leur montrer que Dieu est toujours vivant. Les temps comme ceux-ci n'ont jamais été aussi bons pour l'évangélisation. Quand les gens ont des problèmes, leur cœur est ouvert au Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, je les conduirai dans le désert pour parler à leur cœur. Dieu nous conduit dans le désert, là où tout le monde nous a abandonnés, là où personne ne nous aime plus, là où tout le monde se moque de nous. Quand on sait que c'est fini avec les hommes, il nous reste quoi à faire? Au moins Dieu est là, non? Il dit maintenant petit, quand tu as fini de t'amuser là, je suis là maintenant, viens. Parce que lui t'aime. Mais quand tout marche bien, quand tu es au cours de Dieu, quand Dieu veut te bénir, il te conduit d'abord dans le désert. Là où tu n'as plus rien. Et là, il te forme. Quand il a appelé Paul, il l'envoie dans le désert d'Arabie 3 ans. Il a appelé Abraham, le désert. Moïse, le désert, 40 ans. Jacob, le désert. Jésus, avant de commencer son ministère, a été passé 40 jours dans le désert. Le désert, c'est le camp d'entraînement pour les soldats de Dieu. Quand vous êtes dans le pot, ce n'est pas grave. C'est votre camp militaire. Quelqu'un nous a dit, c'est le camp militaire, c'est quoi? C'est pour briser les, je ne sais quoi, les durs. Et puis quoi pour les mous? Redresser les mous et briser les durs. Voilà ce que Dieu va faire dans le désert. Si vous êtes un dur, Dieu va vous briser dans le désert. Si vous êtes un mou, Dieu va vous redresser. Quel est le signe de faire? Il dit, maintenant on y va. L'homme qui est rentré dans le désert, les gens le voient, c'est un petit gars qui n'a l'air de rien. Quand tu sors du désert, ils croient que c'est le même gars qui est sorti du désert. Ils ne savent pas quand tu as été métamorphosé. Et là, ils sont surpris. Parce qu'ils connaissent l'ancien toi. Ils ne connaissent pas le nouveau toi que Dieu est en train d'utiliser. Ésaïe 61, ce que chacun de nous a comme commande venant de Dieu. Parfait. Alors, regardez. Il dit, l'Esprit, c'est Jésus qui parlait. Il a lu. En fait, ce n'est pas Jésus, ça, c'est d'abord dans Ésaïe qui prophétisait. Et quand Jésus a voulu commencer son ministère, il a lu ça. C'est-à-dire, dit, c'est maintenant que je commence pourquoi je suis venu. Écoutez bien. L'Esprit du Seigneur est venu sur moi pour. Le Saint-Esprit ne vient pas sur vous pour que vous déclarez que vous êtes prophète, archibishop des nations, apôtre international. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu sur vous. Le Saint-Esprit vient sur vous, regardez. Quand le Saint-Esprit est descendu sur vous à la Pentecôte, ils ne se sont pas donné des titres. Ils sont sortis et ils ont commencé à faire ça. Ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Ils ont commencé à évangéliser. Ils ont commencé à guérir les gens. Le Saint-Esprit vient sur vous pour que vous commenciez à manifester la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit en vous, c'est Dieu en vous. Quand Dieu vient quelque part, si vous le laissez vous guider, si vous le laissez vous utiliser, vous ferez ce que Dieu veut faire. Vous devenez des marionnettes aux mains de Dieu. Vous devenez des fils conducteurs. Vous devenez des outils que le Seigneur utilise pour faire ce qu'il veut faire. Si vous faites ce qu'il vous demande de faire, sa puissance vous anime pour le faire. Si vous ne faites pas ce qu'il vous demande de faire, vous n'avez pas de puissance. Donc, le Saint-Esprit est venu sur nous. Le Saint-Esprit est sur chaque chrétien. À condition que, c'est ça que ça veut dire, il veuille bien assumer ce bon de commande-là. Première chose, portez de bonnes nouvelles aux malheureux. Entre nous, dans les temps qui coulent, on a besoin de réfléchir pour trouver des malheureux auxquels on doit apporter la bonne nouvelle. Portez de bonnes nouvelles aux malheureux. Si on pense ça simplement, comme plan d'action, qu'est-ce que nous pouvons faire pour apporter de bonnes nouvelles, pour apporter la joie aux gens malheureux? Tu vois, le soir, une vieille dame, à 1h du matin, elle est devant 3 oranges, c'est-à-dire peut-être 90 francs de valeur. Elle ne dort pas, avec un lampion. Elle est en train d'attendre que quelqu'un vienne acheter ces 3 oranges-là. Quand tu la vois, si tu pouvais scanner son cœur, c'est un minerai de soucis. C'est normal qu'elle finisse avec l'hypertension. C'est normal qu'elle finisse avec l'ulcère. Elle se rappelle de ses enfants qui ne sont encore rien. Ils ont 40 ans, ils sont à la maison, ils sont en train de jouer les voyous. Et en plus, ils ont trouvé le moyen d'être enceinte. Et c'est elle qui doit garder les enfants avec ses 3 oranges qu'elle vend. Elle n'a pas fini de penser ça. Elle est partie, elle s'est monnée au village, elle a dû cotiser 500 francs pour l'enterrement, alors qu'elle n'a pas fini de s'en sortir. Là-bas, il y a quelqu'un qui lui en veut, elle a menacé de mort. Elle est là, elle a pensé à tout ça. Toi, tu arrives. Tu es un chrétien. Tu peux faire quoi? Tu ne la connais pas. Maman, je peux rester un peu avec toi. D'abord, si tu as de l'argent, achète-lui ces 3 oranges-là. C'est la première chose. Jésus nous a dit, il ne faut pas voir quelqu'un qui a faim et lui dit, va en paix, que Dieu te donne à manger. Il dit, non. Il faut commencer à lui donner à manger. On a parlé de capacité. Lui donner à manger là, c'est dans ta capacité. Lui prendre ces 3 oranges de 90 francs là, c'est dans ta capacité. Ne dis pas, bon, maman va prier, le Saint-Esprit va faire, tu vas vendre les 3 oranges. Non, pardon, 90 francs, c'est dans ta capacité. Il faut déjà commencer à lui prendre les 3 oranges là. Quand tu prends les 3 oranges, elle est contente. Pour elle, elle vient de faire une grosse vente. Son cœur est dans la joie. Tu viens de faire pour elle un miracle. Pour elle, là, 1h du matin, là. Quelqu'un qui vient, qui prend les 3 oranges, c'est déjà un miracle pour elle. Son cœur est dans la joie. Tu viens comme Jésus arrive quelque part de multiplier le pain. Les gens disent, maître, pour 3 oranges, elle va t'appeler Foufou alors que tu es fait un enfant, hein. Ou bien, elle va t'appeler comment? Bon. Elle va t'appeler Fofo. Ou bien, vous priez, c'est des choses sérieuses. C'est ça le christianisme, c'est pas la théorie. Elle va t'appeler Fofo. Tu as dit, maman, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un peu de temps ce soir. Je voulais rentrer à la maison, mais je t'ai vu, je ne sais pas. Quelque chose me dit de rester avec toi. Dieu sait que tu as des problèmes, il veut te bénir aujourd'hui. Il m'a dit de parler avec toi un peu. Comment ça va, maman? On commence à parler avec elle. Priez intérieurement, Saint-Esprit, guide-moi. Donne-moi de faire meilleur dans cette vie-là. Si tu avais été là, Seigneur, je suis sûr que tu lui apporterais la joie. Tu as dit que tu es venu pour les affliger. Tu as dit que chaque fois que je fais quelque chose pour quelqu'un qui est dans la détresse, c'est pour moi que tu l'as fait. C'est à moi que tu l'as fait. Seigneur, aide-moi à transformer la vie de cette femme-là, à lui apporter la joie. Généralement, c'est de l'ignorance. Hein. Vous allez voir, vous allez parler avec elle, elle va vous donner certains problèmes. Le Saint-Esprit va vous donner une parole de connaissance. Vous allez lui dire, mais est-ce que tu as tel problème? Comment vous savez? Le Saint-Esprit vient vous faire un miracle. Ah, Dieu va vous donner des idées. Vous n'avez pas fait tout ça bien. Vous allez lui donner des conseils. Vous allez lui parler avec ses enfants. Vous allez lui dire, bon, tu vas à la maison. Laisse-moi prendre tes bagages. Vous lui manifestez l'amour. Vous lui parlez de Dieu. Mais maman, tu sais que moi-même, j'ai vécu tout ça. Moi-même, j'ai vécu tout ça. Il y a tel nombre d'années, j'étais dans la même situation. Il n'a même pas les trois anges que toi, tu vends. Jusqu'au jour où j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris, mon fils, qui a changé ta vie? Elle est obligée de te demander. Et tranquillement, sans t'appeler pasteur, sans t'appeler évangéliste, sans t'appeler prophète, tu lui parleras du Seigneur. De manière concrète, de manière pragmatique. Tu lui montreras qui est Dieu. Tu lui montreras que Dieu l'aime. Tu lui montreras qu'il n'est jamais tard. Tu lui donneras des exemples de personnes qui étaient plus foutues qu'elle et que Dieu a restauré. Tu donneras des exemples de gens qui sont morts, que Dieu a réveillés. Elle va commencer à te poser des questions. Tu te fais ami avec elle, tu vas la revoir une deux fois. Ta petite mère viendra dans ton église. Tu la mèneras quelque part où il y a des gens peut-être plus capables que toi de l'impacter, de l'enseigner, de la transformer. Si c'est une bonne dame, peut-être que là où elle est, si tu dois 5000 francs de capital, tu transformes sa vie. Tu l'amènes quelque part à un frère chrétien. Cette maman-là, je suis en train de prier pour elle. Je veux que le Seigneur la saisisse. Faisons un acte d'amour pour lui prouver que nous sommes des chrétiens. Pour lui montrer qu'il y a encore des gens, il va dire, il y a encore des gens comme ça dans ce monde-là. Des gens qui pour rien. C'est pas que je suis jeune, tu veux me draguer. Comme ça. Et tu dis au nom de Dieu, tu t'es arrêté, tu as prié pour moi. C'est cette image-là de générosité qu'elle va garder votre Dieu. C'est pas compliqué de trouver 5000 fois pour cette maman. Vous lui avez donné le capital de sa vie. Elle va vous appeler plus fort pour moi, elle va vous appeler papa. C'est comme ça qu'on impacte les gens. C'est comme ça qu'on porte de bonnes nouvelles aux malheureux. On n'a pas besoin de grands moyens. On peut même rien avoir. Allez l'aider. Ou bien tu viens dire, maman, c'est trois anges que tu as à vendre. Ok, un instant. Tu marches, tu vois qu'il y a un bar dans le quelque part. Tu vas voir, monsieur, la vie, là, elle a des oranges, elle n'a pas fini le vendredi du matin. Nous allons l'aider à rentrer chez elle. Toi, tu as de l'argent, tu es en train de boire bien, c'est 6 francs. Prends-moi deux oranges. Regarde, bon, d'accord. Rapidement, tu es là, tu fais 3, 4 autour. Tu viens, elle a vendu ses 20 oranges. Elle a fait 1000 francs, maman, rentre à la maison maintenant. Demain va parler. C'est pas possible. Si vous voulez servir, ne vous demandez pas qu'est-ce que j'ai. Ne vous demandez pas comment je ferai. Quand vous avez la volonté, le Saint-Esprit vient sur vous, il vous rend capable de. Et en général, quand on est prêt à faire ça, j'ai remarqué qu'on ne va même pas chercher les gens qu'on va impacter. Tu vas être tranquille, le Seigneur envoie les gens chez toi. Dès que le Seigneur sait que tu es prêt à le servir, il t'envoie lui-même les gens à transformer. Il t'envoie les gens impactés. Si le Seigneur, tu dis au Seigneur, je suis prêt à bénir les gens. Si tu es sûr, si ça dans ta chambre à coucher, le problème va venir te voir. Mais il ne faut pas leur dire, va en paix que le Seigneur te bénisse. Hein. Apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Libérer les captifs. Combien de captifs avons-nous pas dans ce pays-là? Prenez par exemple les captifs des enterrements. C'est des captifs qui sont déjà prisonniers de la mort. Ils ne peuvent pas se soustraire à l'esprit de mort et des enterrements. Ils vivent d'enterrement en enterrement, tout leur argent passe dans l'enterrement. Il y a des captifs de la prostitution, il y a des captifs de la politique, il y a des captifs de la boisson, il y a des captifs de la drogue, il y a des captifs de la vol, il y a des captifs de la sorcellerie, il y a des gens qui sont captifs de différentes choses. Vous voyez que ce n'est pas qu'ils aiment, mais ils sont prisonniers de ça. Ils ont bien envie de sortir, mais ils n'arrivent pas à en sortir. Les captifs de la pauvreté, n'en parlons pas. Les captifs du chômage, ça c'est la grande quantité. Ça, là, moi, je la libère tous les jours au nom de Jésus. Ces captifs-là, Jésus dit que si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit en toi pour t'aider à libérer les captifs et leur proclamer une année de grâce de l'Éternel. Quand tu dis à quelqu'un que cette année-là, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie va être restaurée, tu es béni, les soucis sont terminés, la bonté est terminée, Dieu s'occupe de toi, Dieu t'a donné l'autorité pour le dire, cela s'accomplira. C'est ça que ça dit, proclamer une année de grâce de l'Éternel. Les gens doivent voir la différence entre leur vie avant de rencontrer le Seigneur et leur vie après avoir rencontré le Seigneur. Vous proclamez des années de grâce pour qui? Vous apportez la joie à qui? Soulagez ceux qui ont le cœur brisé. Il faut faire comme Nicolas pour trouver des gens qui ont le cœur brisé aujourd'hui au Bénin. Est-ce qu'il faut faire comme Nicolas pour trouver des gens qui ont le cœur brisé? Ésaïe 61, relisez-le, méditez-le. Qu'est-ce que moi je peux faire dedans? On n'a pas besoin de grands moyens. On a juste besoin de pouvoir. Et le Seigneur permet souvent que c'est dans votre activité quotidienne, c'est dans votre famille, c'est dans votre maison, c'est dans votre église. Les vrais problèmes là, c'est le problème de tous les jours. Un jour de vengeance de l'Éternel. Les esprits mauvais, les esprits familiaux, les sorciers, les charlatans, toutes les choses qui malmènent les gens. Vous avez reçu autorité pour les briser au nom de Jésus. Vous avez reçu autorité pour leur imposer, pour leur appliquer la chanson de l'Éternel. Est-ce que vous le faites? C'est ça le ministère d'un chrétien. Consoler les gens, leur apporter la joie. Et quand vous faites cela, il remplace la tristesse. Il remplace le deuil par la joie. Ils sont tout le temps aux enterrements. Ramenez-les à la joie. Ils passent tout le temps à se plaindre. Faites en sorte qu'ils louent Dieu, qu'ils disent Dieu est grand. Des gens qui sont découragés, quand vous commencez à agir dans leur vie, ils disent toujours Dieu est grand. Je rends vraiment grâce à Dieu. Merci à Dieu qui t'a envoyé. C'est ça que Dieu veut. Quand ils disent merci à Dieu là, Dieu est en train de prendre la récompense. Il est en train d'être glorifié. Vous avez créé de la gloire pour Dieu. Dieu va créer de la gloire pour vous. Jésus a dit à son Père, glorifie-moi pour que je te glorifie. Glorifie-moi pour que je te glorifie. C'est-à-dire, il dit à Dieu, donne-moi la capacité de faire des choses qui vont te glorifier. Donc, la glorification d'un enfant de Dieu, Dieu est réciproque. Dieu vous donne la capacité, vous l'appliquez, Dieu est glorifié. S'il vous donne la capacité, vous n'en faites rien, il n'y a pas de gloire pour Dieu. Ce n'est qu'une faveur pour vous. Dieu vous bénit pour que vous fassiez en sorte que les gens le glorifient. Plus qu'il vous donne quelque chose, cela sert à créer de la gloire pour Dieu, plus il vous en donnera. C'est ça le ministère d'un enfant de Dieu. Faire en sorte que les gens soient une plantation à la gloire de Dieu. Vous prenez un village, vous prenez une famille, vous prenez un groupe d'enfants, c'était la tristesse, c'était le problème. Vous prenez une classe, vous en faites un groupe, une plantation de joie. C'est ça que le Seigneur veut de chaque chrétien. Et quand on dit, demain nous allons rentrer dans les détails, nous allons essayer de prendre en détail, on va s'amuser à dire, mais prenons chacun de nous, sans aller loin, sans avoir besoin d'argent. Qu'est-ce que je peux faire désormais, chaque jour? Quelles sont les choses que je peux me retrouver à faire pour glorifier Dieu? C'est parfois des plutôt simples. Hein? J'ai reçu par exemple un de mes collaborateurs de Porto-Vo dans mon bureau tout à l'heure. Son père est malade, je crois une hypertension ou quelque chose comme ça. Et en me parlant, il dit oui, actuellement, mon père est en train d'être paralysé. Je l'ai arrêté net. Et pourquoi tu racontes des bêtises? Il était choqué. Lui, tu racontes des bêtises? Tu veux tuer ton père? Tu ne comprends pas ce que je voulais dire. Il dit, mais pourquoi tu oses dire que ton père est en train d'être paralysé? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est par elle que nous serons justifiés ou condamnés. Dieu a dit dans l'Exode aux Juifs, parce que vous l'avez dit, je fais ce que votre bouche a dit. Tu dis que ton père est en train d'être paralysé. Il est en train d'être paralysé par le pouvoir de la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous priez en disant, je suis béni au nom de Jésus, je suis dans la joie au nom de Jésus. Et après vous dites, je suis malade, je suis fatigué aujourd'hui, j'ai le palais aujourd'hui, je n'ai pas un fond aujourd'hui, ma poche est sec. Vous annulez vos prières. Pourquoi les chrétiens ne voient rien? Quand on fait un truc où on fait plus et on factorise avec moins, ça donne quoi? Ça donne quoi? Hein? C'est ça que vous faites? Quand vous êtes devant vos pasteurs, vos prêtres, vous faites des bonnes déclarations prophétiques. Au nom de Jésus, alléluia, puis on crie. Il ne sait pas qui perd son temps. Vous n'êtes même pas encore sorti de là que mais les temps sont durs. Hein. Tu viens d'annuler tout le reste. C'est-à-dire que ce seul, les temps sont durs là, tu peux avoir 1000 plus ici. On est d'accord? En mathématiques, tu peux annuler 1000 plus. Tu multiplies par un seul mot, ça devient quoi? Ça devient quoi? En tout cas, les temps sont tellement durs. Tu viens d'annuler tout ce que tu as déclaré. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui peut garder ça, celui qui peut maîtriser sa langue là, il est maître de tout. C'est le membre le plus dangereux du corps. La vie et la mort dépendent de votre langue. Je suis fatigué. Il y a un problème. J'ai des soucis. Je n'ai pas d'argent. Je suis foutu.
Pourquoi moi, rien de tout ça ne s'accomplira sur ma vie au nom de Jésus.
Arrêtez de dire des bêtises. Votre enfant, c'est une petite fille, vous dites, il a le palu. C'est vous qui devez donner le palu. Quand vous dites, il a le palu, vous avez sur sa vie le palu comme s'il était. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Vous ne devez pas prendre votre bouche pour dire ce que vous voyez. Vous devez la prendre pour dire ce que vous voulez. On ne prend pas sa bouche pour décrire ce que Satan fait. On ne prend pas sa bouche pour décrire les mises en scène de Satan. On prend sa bouche pour dire ce qu'on veut. Je l'ai déjà tué. Parce que quand vous êtes une autorité, tout ce que vous dites est supposé être sérieux. Vous n'êtes pas censé dire des choses en blaguant et des choses en disant la vérité, surtout si vous ne prévenez pas que c'est la blague. Donc quand le président de la République devant des militaires dit, bon, fermez-moi ce camp-là, ouvrez ici, achetez des armes, et monsieur, vous me le tuez dans tous les cas. Hein. Si tes gars sont bons, un militaire, exécution avant réclamation, il t'amène ta tête. Tu as dit, mais pourquoi tu l'as tué? Il dit, je l'ai tué. Tu vas pas dire que je blaguais. Quand au tribunal, on arrête quelqu'un, vous qui êtes des juifs là, quand on met la menotte à quelqu'un, on dit, vous pouvez garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Au tribunal de la vie, c'est pareil. Quand vous avez affaire avec la vie, vous feriez mieux de garder le silence. Ce n'est pas pour rien que quand il faisait un tour du mur, je continue à garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous par Satan. Il dira, Seigneur, tu as dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu connais la loi, tu es juste, tu es obligé de respecter la loi. Ce petit-là a dit qu'il est pauvre. Toi, tu veux qu'il soit riche, je suis d'accord. Mais il a dit qu'il est pauvre. Tu as dit qu'il lui sera fait selon sa bouche. Il a dit qu'il est pauvre. Moi, je réclame qu'il soit pauvre. Dieu est obligé sur le coup là de te laisser d'avoir la pauvreté. Maintenant, il va attendre quelques temps. Il va utiliser son Saint-Esprit pour te dire, mais arrête de parler comme ça. Il va essayer de t'aider à ne plus tomber dans le péché. Mais sur le coup, il va d'abord t'appliquer la pauvreté. Parce que la loi, c'est la loi. Dieu ne viole pas la loi. Et Satan est là pour veiller à ce que Dieu t'applique les lois qui te grillent. Vous dites n'importe quoi de vos bouches. Et c'est n'importe quoi là, ça complice. Faites attention à votre bouche. Donc, quand je prends un jeune comme ça, le simple fait de l'arrêter sur ça, de lui apprendre le pouvoir de la parole, si j'étais à côté de son père, d'aller dire, bon, c'est pas grave, allons voir ton papa, on prie pour ton papa, on prie par la foi, Seigneur, relève-le, montre-le dans cette famille que Dieu est vivant, fais en sorte que cette famille soit gagnée pour toi. Le lendemain, le papa commence à marcher. Vous venez de glorifier Dieu. Ce petit-là va toujours croire à Jésus. Sa famille va toujours croire à Jésus. Vous avez sauvé des gens. Vous avez transformé le deuil en joie. Pas besoin d'argent pour ça. Pas besoin d'être archibishop pour ça. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les bishops seulement. Tous ceux qui auront cru. Regardez les signes. Ils imposeront les mains aux malades et ils guériront. Ils buvront des breuvages mortels, ça ne leur fera rien. Ils marcheront sur toute la puissance de l'ennemi. Et pas que vous allez combattre, vous marchez. Je vous dis quand on marche, c'est que je marche une souris, je marche un cafard, je marche une fourmi, on ne peut même pas marcher sur un chat. Quand je vous dis que vous marchez sur la puissance de l'ennemi, c'est que ça ne peut pas être plus grand qu'une souris pour vous. Vous marchez sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voilà les signes auxquels on reconnaîtra ceux qui auront cru. Vous avez cru. Qui vous avez gamin, à qui vous avez jamais posé les mains, et l'a guéri. Vous allez à une cérémonie, vous avez envie de mettre votre verre et votre plat dans votre poche. Quand vous détournez le regard de votre verre pendant 2 minutes, vous ne voulez plus boire. Vous avez peur de mourir. Alors qu'il a dit que les signes qui vous accompagneront, c'est que même si ce n'est pas qu'il faut tenter Dieu à aller voir le poison, boire, dire, je teste Dieu, non. Il a dit, tu ne mettras pas Dieu à l'épaule. Mais si on veut te tuer, surtout pendant que tu rends ministère, tu bois ça, rien ne t'arrivera, il faut te demander qui tu es. C'est ça la vocation des chrétiens. Et donc demain, nous allons rentrer dans les détails pour voir concrètement chacun de nous, pensez-y. C'est le carrefour de la vie est là. Vous allez voir que parmi les chrétiens, il n'y a pas beaucoup de riches. Mais les gens les plus riches parmi les chrétiens sont les grands hommes de Dieu. Les Royer de Pau, les Joyce Meyer, les gars qui sont milliardaires. Pourquoi? Dans le monde, Satan donne de l'argent aux gens. Parce qu'il sait que plus ils ont de l'argent, plus il va les perdre. Satan finance richement les gens qu'il est en train de conduire à l'abattoir dans le monde, en attendant de les briser. Mais Dieu ne donne pas de moyens. C'est-à-dire, Dieu vous donne les moyens proportionnellement à votre élévation spirituelle. Il dit, vous allez prospérer comme prospère l'état de votre âme. C'est écrit. Si votre âme est pauvre et rachitique, vous serez pauvre. Sinon, Dieu n'est pas Dieu. Un païen prospère, plus le païen est mauvais, plus il prospère. Comme le dit la Bible, Satan est en train de l'engraisser pour le jour de la boucherie. C'est écrit dans la Bible. Quand on veut tuer un mouton, on lui donne bien manger d'abord, non? C'est pour ça que Satan engraisse les gens avant de les envoyer à la boucherie. Dieu ne fait pas ça. Quand tu n'obéis pas à Dieu, il te met dans les problèmes pour que tu saches que ça ne va pas. Quand tu vois que ça ne va pas, tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Il te dit au jour du malheur, médite tes voies. Quand tu médites tes voies, il te dit ce qui ne va pas, il te restaure. Donc, quand Dieu bénit quelqu'un financièrement, c'est que la personne a prospéré spirituellement. Donc, pour vite grandir matériellement, il faut vite grandir spirituellement. Il faut vite grandir spirituellement. Et je vous invite à vite grandir spirituellement. Par la connaissance de la parole de Dieu, par la communion avec Dieu, et par l'obéissance à Dieu, et par le ministère pour Dieu. Plus vous allez éclairer le monde, plus vous allez saler le monde, et plus Dieu vous bénira. Dieu même va rentrer dans les détails. Si vous voulez faire une recherche sur Internet, regardez les propriétés du sel. Qu'est-ce qu'on appelle sel? Regardez les propriétés de la lumière. Qu'est-ce qu'on appelle lumière? Parce que quand Dieu dit les choses, là, il faut prendre le temps de voir ce que ça veut dire. Quand on dit sel, ça fait quoi? Quelles sont les caractéristiques du sel? Est-ce que par exemple, vous savez que quand quelqu'un mange beaucoup de sel, il a plus soif? C'est comme on le voit avec l'osmose. Quand il y a une grande concentration de sel quelque part, il faut beaucoup d'eau pour le diluer. Donc, quand quelqu'un mange beaucoup de sel, il a beaucoup soif. Est-ce que vous savez ça? Et c'est pour ça que dans les grands restaurants américains qu'on sort, on fait les trucs comme les McDonald's qu'on sort, sont toujours très salés. Ça vous oblige à boire beaucoup de coca et qu'on sort. Ce n'est pas par hasard. Plus quelqu'un mange du sel, plus il a soif. Si vous êtes un vrai sel, les gens vont avoir soif de la parole de Dieu, qui est l'eau au niveau spirituel. Ça, c'est une petite parenthèse. Le sel est utilisé pour conserver les choses. Nos femmes prennent du poisson, elles mettent du sel dessus, elles sèchent. Ça ne pourrit plus. Le sel empêche la corruption des choses, empêche la putréfaction des choses. Est-ce que vous empêchez le monde de pourrir? Ou vous êtes complice de la putréfaction du monde? Une sauce sans sel n'a pas de goût. Quand quelqu'un prépare mal, si tu veux te consoler pour manger, il faut ajouter beaucoup de sel. Ça fait partie de tous les mauvais goûts. On finit par trouver que c'est acceptable. Une sauce est mauvaise, nous on met beaucoup de sel dedans. Parce que le sel vient toujours neutraliser tous les mauvais goûts. Avec tout ce qu'il y a de mauvais dans notre pays aujourd'hui, là, êtes-vous capable d'être l'antidote, d'être le sel qui équilibre le goût des choses? Vous êtes le sel. Est-ce qu'on peut saler une sauce en tant que sel sans rentrer dans la sauce? Le sel peut rester ici, la sauce doit rester là, et puis la sauce doit être salée. Le sel doit rentrer dans la sauce pour le saler. Les chrétiens ne vont pas dans les couvents. Ils ne vont pas voir les féticheurs. Les païens ne peuvent pas venir à Radio Maranatha. Les païens ne peuvent pas venir à l'église. À certaines églises, un païen ne peut pas rentrer. Il faut présenter une carte que tu as été baptisé pour rentrer écouter la parole de Dieu. Avec ce genre de niaiserie spirituelle, comment on peut être celle du monde en fuyant le monde? Comment tu vas saler une chose dans laquelle tu ne rentres pas? On dit que les chrétiens ne vont pas à la plage. Alors que c'est à la plage qu'il y a les perdus. C'est dans les églises que les perdus vont venir trouver. C'est la foutaise seulement. Vous comprenez? On va continuer ça demain. Vous feriez mieux de comprendre et d'être une armée pour le Seigneur. Excellent Père de gloire, nous venons te dire merci. Merci Seigneur, parce que comme toujours, nous avons passé une soirée extraordinaire. Le temps est passé tellement vite, mais tu as dit qu'une heure passée devant toi vaut mille dans le monde. Nous en faisons tous les jours la démonstration, l'expérience. Sois béni Seigneur, sois loué. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné le plus grand des cadeaux. Celui d'être sauvé, celui de t'avoir en nous, Seigneur. Nous ne sommes pas du monde, même si nous sommes dans le monde, nous sommes avec toi, Seigneur. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est toi qui vis en nous. C'est toi qui es avec nous, c'est toi qui agis à travers nous. Qui te plaît, Seigneur, parce que tu n'as jamais échoué de manifester à travers nos vies ta puissance au nom de Christ Jésus. Seigneur, donne-nous de ne pas être des chrétiens de dimanche. Donne-nous de ne pas être des chrétiens folkloriques. Nous savons, Seigneur, tu l'as dit, que le monde attend plus que jamais la révélation des vrais enfants de Dieu. Je prophétise que chacun de nous est un puissant et redoutable enfant de Dieu au nom de Christ Jésus. Seigneur, oui, Seigneur, nous allons assumer notre bon de commande. Même si personne ne le faisait, nous allons assumer notre bon de commande. Oui, Seigneur, nous allons apporter la joie à la place des deuils. Nous allons apporter la libération. Nous allons apporter le salut. Nous allons apporter le bonheur. Nous allons accepter, Seigneur, d'être le sel, d'aller dans les sauces, qu'elles soient avec de l'huile rouge, avec de l'huile blanche ou quoi que ce soit. Oui, Seigneur, nous allons rentrer dans la sauce pour la saler au nom de Christ Jésus. ne sont pas des lumières qui s'enferment dans leurs églises pour éclairer les gens. Nous irons là où il y a l'obscurité au nom de Christ Jésus. Oui, Seigneur, je prophétise que ce club est un club de personnes qui t'aiment. Pas de garçonnés, pas de ventrus soldats, mais de commandos à la gloire de ton nom. Je le prophétise au nom de Christ Jésus. Tu as dit que si je crois que cela est arrivé, cela est déjà arrivé. Merci Seigneur parce que j'ai des commandos devant moi, parce que comme des commandos ils réussissent des exploits pour toi, parce que c'est toi qui les équipes, c'est toi qui les conduis, c'est toi qui pilotes la guerre, mais c'est toi qui les bénis Seigneur, c'est toi qui leur donnes les galons, c'est toi qui leur donnes des grades, c'est toi qui les bénis. Comme les petits soldats allant en ONU ou en mission en ONU, ils reviennent avec plein d'argent. Je bénis Seigneur ton nom parce que tu rapportes des bénédictions, tu donnes des provisions à tous ceux et celles qui acceptent de servir. Merci Seigneur parce que tu prends en charge chacune de nos vies. C'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous formates, c'est toi qui nous outilles. Instruis-nous Seigneur, tu as dit que tu nous diras toi-même le chemin à prendre. Tu nous conduiras sur les chemins tortueux. Tu nous montreras la voie parce que tu es avec nous tous les jours. Merci Seigneur parce que tout cela est réalité pour nous. Merci parce que demain nous nous retrouvons encore plus nombreux pour partager ta parole, pour l'appliquer parce que nous voulons être heureux d'appliquer ce que nous avons entendu. Sois béni Seigneur, au nom de Christ Jésus nous t'avons prié. Amen.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Fouigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi, tandis que la solution existe ?